Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le bilan humain d'un confinement tardif. Le journal Le Monde, avec l'épidémiologiste Pascal Crépet, estime que 14 000 décès et 160 000 cas de Covid long auraient pu être évités si le confinement n'avait pas été retardé à début avril, quand les hôpitaux étaient pleins. Les boîtes de nuit, toujours dernière de la liste du déconfinement, réouverture prévue début juillet, mais avec un pass sanitaire à l'entrée et des masques sur la piste de danse. Proposition du gouvernement qui font hurler les gérants de discothèques. Un grand nombre de députés dressés face au gouvernement à cause de son refus d'individualiser l'allocation adulte handicapé. Vote bloqué hier à l'Assemblée. Dans le journal, le flop de l'ouverture à la concurrence des TER, les élections en Iran et des Bleus demain dans le chaudron hongrois dans un stade peuplé de militants nationalistes. Invitée d'Europe Midi, l'actrice et romancière Macha Merrill qui organise demain le premier festival avec un grand prix, Michel Legrand.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout à la joie de masques qui tombent, d'une liberté retrouvée, d'un virus qui se fait rare, on en viendrait à oublier le terrible bilan de ces derniers mois. Le Covid a tué 110 000 personnes en France depuis le début de la pandémie. Et question posée aujourd'hui par le journal Le Monde, combien de vies humaines auraient pu être sauvées si le gouvernement avait confiné les Français début février, comme le lui conseillaient les scientifiques, et non début avril, contraint et forcé par la saturation des hôpitaux. Réponse: 14 000 décès, 112 000 hospitalisations et 160 000 cas de Covid long auraient pu être évités. Travail et calcul effectué avec l'épidémiologiste Pascal Crépet de l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Virginie Riva.
Oui, Le Monde a pris les courbes d'évolution des trois principaux indicateurs épidémiologiques que sont les décès, les réanimations et les hospitalisations, et a décalé dans le temps la courbe d'impact des mesures de confinement prises en avril à février, si on avait réagi de façon plus précoce. C'est donc un calcul théorique pour donner un ordre de grandeur. À cette époque, en février, le variant anglais circulait sur le territoire, donc freiner sa diffusion aurait effectivement évité des morts. Mais le calcul a des limites posées par Pascal Crépet lui-même.
Si vous changez la situation épidémiologique à un moment, eh bien, les conséquences de ce changement se prolongent dans le temps. Donc c'est difficile de savoir si on aurait été en mesure de garder un niveau de circulation très très bas de mars jusqu'à juin. Si justement la vaccination et l'avancée de la saison printanière et estivale ne nous aide pas à garder l'épidémie sous contrôle.
Autre objection, dit l'épidémiologiste, les Français auraient-ils accepté les mesures dès le mois de février? Car le niveau de circulation du virus, même s'il était élevé, restait alors sur un plateau.
Aujourd'hui, l'épidémie s'éloigne, plus que 51 décès par jour en moyenne sur la semaine écoulée et le déconfinement s'accélère jusque dans les boîtes de nuit. Réouverture envisagée début juillet, mais avec un protocole sanitaire qui ne fait pas danser de joie les tenanciers de discothèques, Angèle Châtelier.
Exactement, parmi les mesures envisagées, eh bien c'est le pass sanitaire. Mais plusieurs problèmes se posent. D'abord, la plupart des jeunes, ceux qui vont le plus en club, ne sont pas totalement vaccinés. Seulement 8% des 18-20 ans. Ce qui implique qu'ils devront prévoir de faire un test antigénique avant d'aller danser. Ce n'est pas vraiment dans l'ADN des discothèques dans lesquelles on va un peu au débotté. Et surtout, c'est injuste par rapport aux bistrots et bars de nuit qui n'ont pas cette contrainte du pass sanitaire. C'est ce que déplore Patrick Malves, président du syndicat des discothèques.
Donc on va pouvoir continuer à danser dans les bistrots, dans les restaurants ambiance musicale, faire la discothèque qui ne dit pas son nom, dans les clubs de plage de l'été, etc. Et pas dans les discothèques. Il faut arrêter de se moquer du monde.
Et puis Patrick, imaginez-vous être en boîte de nuit, danser et devoir porter un masque parce qu'il serait obligatoire. Interdiction aussi de consommer debout et d'aller fumer dans les fumoirs qui seront fermés. C'est intenable pour Thierry Fontaine qui s'occupe de la branche nuit au syndicat hôtelier Lumi.
Déjà, il n'y a plus de fêtes possibles avec un tel protocole. Et je vais même dire, si le gouvernement cherche une discothèque test, je lui conseille de trouver une prison avec un quartier de haute sécurité.
Enfin, reste la question de la jauge. Elle devrait être limitée à 65% en juillet, puis 85% en août. Emmanuel Macron doit dessiner les contours de la réouverture des boîtes de nuit ce lundi à l'occasion de la fête de la musique.
Merci Angèle Châtelier. Cérémonie militaire ce matin au mémorial du Mont-Valérien près de Paris pour le 81e anniversaire de l'appel du 18 juin 40. Emmanuel Macron est présent aux côtés du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, bientôt 101 ans. et du dernier survivant du commando Kieffer qui débarqua en Normandie en juin 44, Léon Gauthier, 98 ans. Le président s'envole ensuite pour Berlin et un dîner de travail avec Angela Merkel. Du bruit et de la fureur hier à l'Assemblée nationale sur la question du calcul de l'allocation adulte handicapé, un montant maximal de 904 euros mensuels, 1 200 000 bénéficiaires, comme toutes les prestations sociales, l'allocation est calculée en fonction des revenus du couple. Et c'est l'idée de l'individualiser en vertu du droit à l'autonomie des personnes handicapées qui a mis le feu aux poudres. Il est largement soutenu dans l'hémicycle et par le monde associatif, mais rejeté par le gouvernement. Il en coûterait 700 millions d'euros, d'où le recours exceptionnel au vote bloqué, tumulte sur tous les bancs, Claudia Bertram.
Oui, d'un côté, tous les groupes d'opposition de LR à la France Insoumise et puis le groupe Agir, pourtant allié de la majorité, sont pour l'individualisation de l'allocation. Le député insoumis, François Ruffin, sort la sulfateuse.
Votre philosophie, c'est un portefeuille à la place du cœur.
De son côté, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, défend un nouveau calcul jugé plus redistributif et elle avance aussi un autre argument.
Cette PPL ne pourra pas s'appliquer avant des années parce qu'aucun système informatique ne pourra la mettre en œuvre. Nous sommes le gouvernement des droits réels, pas des droits incantatoires.
Argument hué, l'ambiance s'électrise dans l'hémicycle face à la contestation des oppositions et à un scrutin qui s'annonce serré. Le gouvernement opte pour le passage en force, demande de report du vote d'abord, puis recours au vote bloqué. En clair, les députés ne peuvent voter que la version du texte approuvée par l'exécutif.
En application de l'article 44, alinéa de la Constitution, je demande donc à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'article 3, à l'exclusion de tout amendement.
Vous l'entendez, vive contestation dans l'hémicycle, des députés brandissent des cartons rouges. Le président du groupe communiste, André Chassaigne, ne retient pas sa colère.
Vous comportez comme des marcheurs qui marchent sur les débris de la démocratie. Et vous êtes en fait aujourd'hui de porter une atteinte très grave à la démocratie parlementaire et j'en ai honte pour vous. Face à ça, tous ensemble, nous avons l'intention de vous quitter, de vous laisser face à vos turpitudes.
Députés de droite et de gauche quittent effectivement l'hémicycle. Certains ont mis en garde contre la portée de ce vote bloqué, notamment sur les élections départementales et régionales de dimanche.
Merci Claudia Bertram. Élections régionales et départementales, donc dimanche, la campagne axée sur l'insécurité a fait oublier que la plus grosse part des budgets des régions est dévolue au transport. Il y a beaucoup d'attentes et souvent d'insatisfaction sur les TER. La réforme ferroviaire de 2018 devait casser le monopole de la SNCF sur les trains régionaux, mais pour l'instant, Aurélien Fleureau, pas de bousculade pour prendre le train de la concurrence.
Oui, c'est vrai que les premiers effets se font attendre, notamment dans les régions qui demandaient haut et fort cette concurrence. Les premiers résultats d'appel d'offres auront lieu dans quelques semaines en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où un tiers du réseau régional est mis en concurrence. Sur ce que l'on appelle l'étoile de Nice, là, la SNCF semble seule en lice. Peut-être un peu plus de compétition, en revanche, sur la ligne Marseille-Toulon-Nice. Mais le processus est long, très réglementé. La crise sanitaire a engendré des retards chez certains candidats, qui seront français, comme Transdev, mais aussi européens, allemands, espagnols et italiens, comme le rappelle Arnaud Aimé, spécialiste des transports au cabinet SIA Partners.
Ils ont eux-mêmes des bonnes références dans leur pays domestique. Et puis la barrière à l'entrée, elle est finalement assez faible. C'est-à-dire que le concurrent de la SNCF, il n'a pas besoin de venir lui-même avec ses rames, il n'a pas besoin de venir avec ses conducteurs. C'est les conducteurs et le matériel roulant de la SNCF qui est repris par le conseil régional qui ensuite le met à disposition du nouvel attributaire.
Et puis les autres appels d'offres déjà lancés se situent dans les régions Grand Est et Hauts-de-France. Plusieurs lots sont ouverts. Là aussi, les concurrents seront là, mais pour une exploitation du service qui débuterait en 2023 ou 2024.
Pour l'infirmière disparue dans le Tarn, Delphine Jubilard, son mari Cédric sera présenté à un juge après 48 heures de garde à vue. On en parle tout à l'heure dans le journal de 13h avec Benjamin Péter.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À suivre, Téhéran pour la journée de vote et Budapest avec les gros bras d'extrême droite du régime Orban qui se prépare à accueillir les Bleus.
Europe Midi, Patrick Cohen.
L'Iran élit son président. On ne dira pas pour autant que les Iraniens choisissent leur président, tant l'engouement électoral semble faible dans un pays en pleine crise et tant l'offre de candidats s'est réduite à peau de chagrin. Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, de plus en plus restreint, car sur les 4 candidats restants, 3 sont détenants de la ligne dure du régime. Évidemment, ça laisse peu de place au seul candidat réformiste déjà peu populaire. L'éventail se réduit, mais Farhat, agent de voyage, ne semble pas gêné.
Le candidat qu'OGM, il est là, moi, non. Quand il y en a 3, 4 qui ont plus ou moins la même idée, la même politique, et celui qui est beaucoup plus aimé, alors les autres, ils ont été sages de passer, laisser lui avancer.
D'un bureau de vote à l'autre, l'affluence change. Foire d'empoigne dans les quartiers conservateurs où les assesseurs sont peu regardants sur la distance physique. Pas de file d'attente dans les secteurs où la population est plus ouverte. Hassan voit bien que son camp risque de triompher sans gloire.
You have a plan to get for an example.
Parfois, vous vous rendez à un examen, mais vous savez que vous ne pouvez pas avoir 20 sur 20.
Sometimes you cannot get a score to 20.
Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous rendre à cet examen. L'important, c'est d'avoir la moyenne.
Beaucoup apprécieraient un second tour pour donner plus de légitimité aux vainqueurs, mais vu le nombre de concurrents sérieux face à l'ultra-conservateur et ultra-favori Raïssi, ce scrutin a déjà un goût de finale.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran, retour en Europe, mais la Hongrie est-elle encore pleinement en Europe? Le gouvernement de Viktor Orban a fait passer cette semaine un texte calqué sur la loi russe qui interdit aux moins de 18 ans tout contenu qui représente ou promeut l'homosexualité, l'identité de genre et le changement de sexe. La Commission européenne s'est saisie du problème. C'est donc à la fois dans ce régime, dans un stade comble et largement hostile, que les Bleus s'apprêtent à plonger demain pour une place en 8e de finale de l'Euro. Une épreuve presque autant politique que sportive, Jean-François Pérez.
Oui, et demain après-midi, dans la fournaise du stade Ferenc Puskás, les supporters français entendront notamment ces chants. La brigade des Carpates, un mouvement assimilé au néo-nazisme. Il y a 3 jours, face au Portugal, ils étaient 5000 dans les tribunes. T-shirt noir, tatouage, tout muscle dehors. Un soutien sans faille à Viktor Orban, le vitupérant Premier ministre hongrois, qui a fait de cet Euro de foot un instrument de propagande politique. Explication avec Américo, il est guide touristique à Budapest depuis plus de 20 ans.
Les Hongrois ont perdu leur identité. Orban essaie de les réveiller. Hey, vous êtes Hongrois, c'est bon d'être nationaliste. Quand vous dirigez la grosse entreprise qui est l'Union européenne, vous ne voulez pas que la petite vous résiste. Donc l'Europe de l'Ouest n'aime pas que la Hongrie regarde aussi vers l'Est. Notre futur est davantage à l'Est qu'à l'Ouest.
En attendant les élections l'an prochain, Viktor Orban, l'ancien joueur de deuxième division, a nationalisé le foot hongrois. Club, médias, stade, tout appartient à sa famille politique. Et il est le seul à avoir construit une enceinte spécialement pour cet Euro. Alors malgré le Covid, dont on ne parle plus ici, ils seront 65 000 demain au stade. En attendant peut-être d'accueillir les Jeux Olympiques, Orban en a fait, paraît-il, une affaire personnelle.
Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest en Hongrie. Et le match du jour, évidemment, ce sera ce soir les retrouvailles entre Anglais et Écossais à Wembley pour la 2e journée du groupe D. Match qui s'inscrit dans 150 années de rivalité sportive et des siècles d'antagonisme historique. Voilà, Angleterre-Écosse à Wembley pour l'Euro. Le temps avec vous, Anissa Haddadi. Fin des vigilances aux orages, mais le temps reste instable.
Oui, on a une petite pause là, Patrick, qui s'offre à nous du côté des orages. Cet après-midi, sur la Normandie, le Nord, nous aurons de la pluie. Des pluies qui vont s'évacuer doucement par les Hauts-de-France. Au bord de la Manche, le vent d'ouest reste sensible, hein, ça souffle, attention. Des pays de la Loire aux Hauts-de-France, en passant par la région parisienne, le ciel est nuageux toute la journée. Des petits orages peuvent éclater encore, surtout du côté du nord de la Seine, hein, entre les Hauts-de-France et Paris. Sur le reste du pays, nous avons un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies, mais c'est vrai que ça fait du bien cette pause. Le temps redevient calme dans le sud-ouest, au bord de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône. Jusque dans les Ardennes, on a le vent du sud qui s'engouffre dans la vallée du Rhône et qui souffle jusqu'à 60 km/h. Les températures, vous l'avez constaté, si vous nous écoutez dans le nord-ouest, elles ont bien baissé après le passage des orages. Seulement 15 degrés à Saint-Brieuc, 16 à Cherbourg, 21 degrés à Rennes, 23 à Nantes et Biarritz, 26 à Aurillac, 27 à Paris, 31 degrés à Besançon, et c'est dans l'Est qu'il fait encore chaud, 33 à Lyon, 34 à Strasbourg. Et je vous rappelle que la vigilance orange canicule est toujours en place sur le département du Rhône. Une nouvelle grosse dégradation orageuse arrive pour ce week-end. Je vous en reparle ce soir.
Merci Anissa.